Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce temple où nous sommes venus chercher une présence divine, entendre une parole qui nous aide à vivre, que chacun de vous se sente accueilli et ici chez lui autant que possible. Et avant toute chose, nous nous rappelons cette bonne nouvelle, cet évangile qui est vrai pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Quel que soit le chemin qui nous a conduits jusqu'ici, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance à Dieu avec le premier spontané indiqué dans le petit livret qui figure au début du psautier français. Nous louons Dieu. Sans fin, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles et l'assemblée des croyants célèbre ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors, heureux. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Et nous pouvons prolonger cette louange qui était extraite du psaume 89 en chantant le psaume 95b. Donc, prenons l'harmonisation de Genève, psaume 95b, les strophes 1, 2 et 4.
Thank you.
prenons place pour entendre une exhortation adressée par l'apôtre Paul à la communauté de Galates. Paul qui nous fait cette recommandation en quelque sorte, « Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour, car toute loi se résume à ce seul commandement, « Aime ton prochain comme toi-même. » C'est dans le livre de Daniel que nous trouvons cette prière qui peut être notre prière maintenant. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'injustice. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos gouvernants, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion. Parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Et nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et dans le livre du prophète Daniel, également, cette parole, oracle de Dieu qui s'adresse à Daniel en lui disant ceci. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ces paroles de grâce qui résonnent dans le livre du prophète Daniel témoignent d'une parole d'amour, d'une parole qui aime. Et c'est avec cet amour que nous pouvons trouver le thème majeur de notre manière de dire Dieu, de confesser Dieu. Dieu est amour, et par amour, Dieu notre Père a créé le monde. En son Fils Jésus-Christ, Dieu a agi pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend capables, responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisan de paix et de vérité, parmi nos contemporains, comme artisan de justice et de pardon, dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toute chose, nous pouvons effectivement nous tenir debout pour dire que Dieu est amour. C'est ce que nous croyons. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place pour entendre un passage du livre du prophète Daniel, justement. Cet épisode qui a donné son nom à une expression populaire, le colosse aux pieds d'argile. C'est dans le chapitre 2 du livre de Daniel, que je vous lirai les versets 1 à 11, les versets 19 à 23, puis 29 à 45, mais vous pourrez tout à l'heure chez vous reprendre l'intégralité de ce chapitre qui en vaut la peine, avec d'ailleurs l'ensemble du livre de Daniel et l'ensemble des textes bibliques. La seconde année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor rêva des rêves, il eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Alors le roi fit appel à des magiciens, aux sorciers, aux enchanteurs et aux chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: « J'ai eu un rêve, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce rêve. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. C'est un passage qui est écrit en araméen. Ce sera plus facile pour nous en français. « Ô roi, vis éternellement, dis le rêve à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites dans la gadoue. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera tous. » Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés? C'est pourquoi Dites-moi le rêve, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi : « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, sorcier ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Alors, la situation est un peu figée, et puis intervient Daniel. Daniel qui est mis au courant de l'affaire, et le verset 19 dit ceci. « Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Daniel va donc voir le chef de cabinet du roi pour lui dire qu'il est en mesure de pouvoir lui dire et le songe et lui donner l'explication. Et donc voici comment il s'adresse au roi. « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, si tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui emplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le rêve est véritable et son explication est digne de confiance. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Nous allons prendre notre recueil de chants, louanges et prières au numéro 390 et nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique et nous nous levons pour prier Dieu par notre chant. Éternel notre Dieu, aide-nous à nous ouvrir à ton esprit pour que nous soyons attentifs à ta parole, disponibles à ton évangile. Derrière ces mots que nous avons entendus, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour notre vie. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Chers frères et sœurs, les chrétiens sont parfois taxés d'être de doux rêveurs. Alors je ne sais pas si nous sommes doux, mais je trouve qu'il est plutôt heureux d'être rêveur. Non pas rêveur au sens de déconnecté de la réalité, au sens de la tête dans les nuages et les pieds pas vraiment sur terre, mais rêveur au sens de celui qui fait un rêve pendant son sommeil. Dès le livre de la Genèse, les rêves constituent une matière dans laquelle les auteurs bibliques vont largement puiser, soit plus de 2000 ans avant les psychanalystes viennois. Les rêves bibliques se produisent pendant la nuit. Ils ont un rapport avec l'éternel et ils sont porteurs d'une vérité qui, jusque-là, n'était pas évidente pour le rêveur. Les chrétiens sont parfois accusés d'être de doux rêveurs comme s'ils vivaient dans une vaste illusion. Eh bien, j'aimerais vous montrer que dans la perspective biblique, le rêve n'a rien d'une illusion, mais qu'il a toute sa place dans le processus de révélation qui est l'un des thèmes centraux de la théologie chrétienne. Alors l'originalité de ce passage biblique est qu'il parle d'un rêve qui n'existe plus. C'est comme si le roi Nabucodonosor arrivait chez son psychanalyste pour interpréter son rêve alors qu'il n'en a aucun souvenir. A priori, la tâche est impossible. Le psychanalyste est sans matériaux. Ce serait demander à un exégète d'interpréter un texte dont il n'a pas connaissance. Comment les magiciens, les sorciers, enchanteurs et autres chaldéens pourrait-il dire le rêve et a fortiori en donner une explication s'ils en ignorent tout? C'est l'expérience du croyant qui n'entend aucune parole de Dieu. C'est lorsque nous ressentons l'absence de Dieu. Ni voix, bien entendu, ni message, ni signe de la part du divin. Et notre foi, la foi chrétienne, pourrait bien nous donner l'impression de résonner dans le vide. Comme les magiciens, les sorciers et autres enchanteurs convoqués par le roi, nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. Et ces consultants du roi disent juste en affirmant que seul Dieu peut dire ce que le roi demande, à savoir son rêve et son interprétation. Nous voulons entendre une parole de Dieu, nous aimerions avoir accès à la vérité, mais rien. C'est comme si le robinet était bloqué. Il n'y a que silence. Un silence qui risque de devenir mortel. Ce qui est étonnant, c'est d'imaginer que l'Éternel retienne sa parole, ses signes, qu'il s'obstine à ne pas se manifester. Pourquoi donc y aurait-il de la rétention d'informations de la part de l'Éternel ? Alors parfois nous pensons que le silence de Dieu est causé parce que nous sommes trop insignifiants. L'Éternel a quand même mieux à faire que de s'intéresser à nous. Petite chose. Ou alors que nous ne sommes pas assez qualifiés pour qu'il se tourne vers nous. Cela signifierait-il que l'Éternel attende que nous soyons rois ou docteurs en théologie pour daigner s'adresser à nous ? Eh bien non, puisque le roi et les spécialistes n'ont pas le début de la moindre explication. Le silence est absolu. Pour Daniel, en revanche, les choses semblent moins compliquées. Cela ne pose pas autant de problèmes. Il est donc intéressant d'observer comment il s'y prend pour obtenir ce que le roi et les spécialistes patentés n'ont pas obtenu. Il est indiqué dans le texte qu'il s'adresse à l'Éternel et que le secret du roi lui est révélé pendant la nuit. Déjà, notons que la sagesse pratique de Daniel consiste à tirer les conséquences du constat qui avait été fait. Si Dieu seul peut révéler le rêve, eh bien, autant lui demander. Après tout, les consultants du roi auraient été bien inspirés de tirer les conséquences de leur propre constat. Si seul Dieu est au courant, eh bien, demandons à Dieu. C'est ce que fait Daniel, tout simplement. Alors évidemment, cette simplicité détonne légèrement avec notre propre expérience, parce qu'il nous arrive plus d'une fois de demander quelque chose et de ne pas avoir de réponse, même pas de réponse automatique en disant « Je suis en congé pour l'instant, je vous répondrai à mon retour ». L'Éternel semble pour le moins avare de réponses. Intéressons-nous encore à Daniel, pour comprendre comment il s'y prend pour réussir son entreprise. Nous pourrions penser que Daniel bénéficie d'une révélation particulière sur le mode surnaturel. Mais la sobriété du récit nous oriente sur une autre piste. Je cite le texte. « Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » La nuit désigne la période propice au rêve, je l'ai dit. Daniel a-t-il rêvé ce que le roi avait rêvé ? Je ne pense pas que Daniel se soit endormi et qu'il ait rêvé comme nous le faisons tous pendant notre sommeil. Daniel a eu une vision, dit le texte. Cela signifie qu'il a visualisé le secret du roi. Visualiser, une visualisation. C'est justement le travail du rêve qui a pour but de former une image unique. Daniel a-t-il rêvé ? Avec le psychanalyste Daniel Siboni, qui s'est intéressé aussi à ce passage biblique, j'opte plutôt pour le fait que Daniel a reconstruit le rêve du roi. Il ne l'a pas rêvé, il l'a reconstitué. Il l'a produit en utilisant les différents mécanismes qui seront théorisés plus tard par Freud. Et peu importe que vous reteniez ou non les termes techniques que j'emploierai, voilà comment Daniel a pu fabriquer le rêve du roi. En réorganisant le désir profond du roi et son environnement, comme le fait un rêve. Ce que Daniel a fait, c'est de reprendre les mots du roi et de les déplacer à la manière du déplacement opéré par le rêve. Le roi promettait de mettre les consultants en pièces. Le rêve contiendra donc des pièces, des morceaux, qui seront les différentes parties de la statue. Il promettait aussi de la gadoue. Eh bien, le rêve finira donc dans l'argile des pieds de la statue. Il était question de maison, qui, dans la langue biblique, désigne aussi la maisonnée, la famille, au sens le plus large qui soit. Il sera donc question de maison royale, de royaume, qui seront les pièces de la statue. Daniel opère aussi par condensation, car la maison est aussi ce qui contient le père et le fils, Ab et Ben en hébreu. La condensation de Ab et de Ben, ça donne Eben. C'est la pierre en hébreu, la pierre qui va briser la statue. Enfin, la statue est le résultat de la figuration, ce qui permet de lier les différents éléments d'un rêve, ce qui leur permet de tenir tous ensemble et de produire une image cohérente. La statue, c'est bien sûr ce qui entoure le roi dans son palais, à la fois comme mobilier, mais aussi par ses serviteurs qui, en regardant bien le texte, sont aussi actifs et entreprenants que de véritables statues. Avec des conseillers pareils, nul besoin d'aller chez les antiquaires pour acheter des statues ou chez le fleuriste pour acheter des plantes vertes. En suivant cette hypothèse de lecture, le dialogue engagé par Daniel avec l'Éternel consiste à confronter les éléments qui constituent le quotidien, tout ce qui est autour du roi, avec l'ultime, ce qui revient à faire une lecture théologique du présent. En écoutant le roi exprimer ses menaces et en les confrontant à ce qu'il connaît de l'absolu, Daniel peut débusquer une logique de la rétribution qui anime le roi et qui contraste singulièrement avec la dynamique de grâce et de pardon. Il peut aussi entendre les accents mortifères du roi qui traduisent les fortes pulsions de mort à l'œuvre chez lui, par contraste avec le dynamisme créateur de vie. Ceci pour dire que le dialogue avec l'Éternel n'est pas comme une conversation entre amis, qu'elle ne consiste pas dans une exégèse d'un texte biblique ou religieux. Le dialogue avec l'Éternel, tel que nous le révèle Daniel, c'est la mise en tension du quotidien avec ce qui fait figure d'absolu pour nous. Aussi, le dialogue avec l'Éternel ne consiste pas à mettre à jour une vérité universelle, mais à révéler notre vérité, ou dans le cas de Daniel, la vérité du roi. Le dialogue de Daniel avec l'Éternel n'est pas une conversation avec quelqu'un, c'est la mise en rapport de l'absolu et du particulier. Et c'est là d'ailleurs une caractéristique de la théologie libérale. Elle consiste à prendre au sérieux la parole de l'individu qui nous parle. Ce que ne font pas les consultants du roi, qui, plus exactement, en font un mauvais usage. Car ce que les consultants retiennent, c'est le caractère menaçant. Ils ont certes raison de prendre les menaces au sérieux, mais leur erreur est de ne pas entendre derrière les mots le sens qui s'y cache, à savoir la vérité de la personne qui s'exprime. Le rêve, c'est le travail de notre psychisme pour mettre en forme notre désir profond et le faire accéder à notre conscience, que nous prenions conscience de notre désir profond. Ce désir est tellement profond que nous avons souvent du mal à y accéder. Et ce désir est bien plus profond que ce que nous donnons à voir. Mais ce que nous donnons à voir et comme les prémices de ce qu'il y a au fond de nous. Ce désir profond est le fruit de notre condition personnelle, notre histoire, notre environnement, les gens qui sont autour de nous, notre culture, et des aspirations divines auxquelles nous sommes sensibles. C'est pour cela que les nuits du roi sont particulièrement agitées. C'est qu'une véritable bataille se tient au-dedans de lui. Sa nature profonde bataille avec ses intuitions théologiques. Il est à la fois nourri de ses pulsions mortifères, de cette véritable arrogance et de ce véritable totalitarisme à l'endroit de ceux qui l'entourent, et autre chose, le tarabusque. Quelque chose qui est peut-être proche de l'espérance de l'Éternel et qui lui fait dire que ces pulsions-là mériteraient de ne pas donner toute leur mesure. Les nuits du roi sont agitées parce qu'il y a un décalage profond entre ce qu'il veut et ce qu'il pourrait vouloir s'il donnait un peu plus de place à l'absolu. Et cette bataille-là, cette bataille interne, voilà ce qui l'agite et qui le terrorise. Et bien sûr que la statue est terrifiante pour lui, parce que ce qu'il voit lui fait peur. La mise à jour de ce désir profond que nous réfrénons de bien des manières, parce que la vérité est peut-être bonne à dire, mais elle n'est pas spécialement bonne à voir, elle est souvent assez effrayante, eh bien la mise à jour de ce désir profond, c'est la révélation de ce que nous sommes vraiment, de notre identité véritable, qui est notamment le résultat de ce que Dieu construit en nous, c'est-à-dire la conscience que nous avons de l'absolu. La théologie libérale, à la manière de Daniel, écoute d'une oreille attentive la parole de l'interlocuteur, car elle sait que se disent là des intuitions authentiques de ce que peut être une vie divine pour celui qui parle. Autrement dit, entendre derrière les mots qui sont prononcés une intuition qui renvoie à quelque chose de divin. Le divin s'exprime dans nos phrases, même chargées d'avertissement et de mort. On pourrait dire qu'il n'y a pas que dans les bénédictions qu'une parole de Dieu peut frayer son chemin, dans les insultes également, pour aussi extraordinaire que cela paraisse. Cela est vrai à la condition de ne pas en rester à la lettre du texte. Prendre un texte à la lettre, c'est ce que l'on fait lorsqu'on interprète un rêve, justement parce qu'il se lit comme un rébus, quand il est chargé de ses éléments énigmatiques. Et du coup, prendre un texte à la lettre, être littéraliste, ce n'est pas autre chose que de prendre ses rêves pour la réalité. Ici, nous découvrons que le rêve, cette part intime de notre être, peut être détenteur d'une vérité qui jusque-là nous échappait. Et c'est ainsi que Daniel justifie son travail d'interprétation auprès du roi, en lui disant que c'est pour qu'il connaisse la pensée de son cœur. Le cœur qui est à la fois le lieu où s'organisent les pensées et le lieu où les pensées vont pouvoir se traduire en action, en décision. L'intérêt de ce passage biblique est qu'il ne fait pas du rêve le sommet de la vie chrétienne. Je vous aurais beaucoup parlé de rêve dans cette prédication, mais ne passez pas vos journées désormais à rêver. Le texte le montre bien. On peut très bien ne pas se souvenir de ses rêves et avoir accès néanmoins à cette part de nous-mêmes qui contient le secret divin. Et c'est heureux pour tous les gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves le matin. Ce qui est intéressant dans le rêve, c'est que le rêve et son interprétation renvoient à cette possibilité que nous avons d'accéder à la vérité de notre existence. Lorsque les textes bibliques parlent de rêve, ils disent que nous avons cette possibilité d'accéder à cette part authentique de notre existence. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir nous déterminer plus librement dans nos choix de vie. Car c'est lorsque nous sommes conscients de ce que nous désirons, mais aussi de ce qui serait bon, que nos choix sont vraiment informés et que nous pouvons donc nous déterminer en toute liberté. Parce que le roi prend conscience de ce qu'il a au fond de lui, il peut désormais agir en conséquence. Il sait qu'en s'obstinant dans sa voie, il se mettra en danger, lui et sa descendance qui volera en éclats, à l'image de cette statue qui sera volatilisée. Du coup, sachant cela, il peut réorienter sa vie, il peut lui redonner une autre impulsion, il peut faire d'autres choix que des choix uniquement conduits par ses pulsions de mort. Le dialogue avec l'Éternel, ce dialogue du particulier avec l'absolu, nous ouvre donc à un entretien infini avec le vivant, pour que nous entrions, nous aussi, c'est la promesse de Daniel, dans une vie qui subsistera éternellement. Amen. Le cantique 407 nous donnera l'occasion de chanter notre confiance dans le fait que Dieu nous donne un sauveur. De quoi le sauveur nous sauve-t-il ? Eh bien peut-être Sauve-t-il notre connaissance de nous-mêmes en mettant à jour ce qui est caché et qui peut enfin prendre chair dans notre conscience? Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique 407. Prenons place pour échanger quelques informations. Tout d'abord, vous précisez que si c'est moi qui suis en chair actuellement et pas Vincent Hubac, le pasteur du foyer de l'âme, c'est parce qu'entre le moment où nous avions convenu qu'il viendrait présider le culte et aujourd'hui, il s'est passé le synode national auquel il a été convoqué. Donc il fait partie de ceux qui ont élu notamment le nouveau conseil national. Les votes étant à bulletin secret, je ne voudrais pas trahir de secret, mais a priori, il a plutôt voté pour le Conseil national qui a élu notamment le pasteur Laurent Schlumberger comme président, premier président de l'Église protestante unie de France. Vous aurez constaté que je me suis bien gardé de cette interprétation qui me semble une fausse interprétation, à savoir que l'Église protestante unie pourrait être une sorte de statue dont les pieds seraient faits d'argile et de fer, une sorte de mauvais assortiment qui ne pourrait conduire qu'à la désunion. Non. Dans notre calendrier, demain à midi, le groupe protestant des artistes se réunira pour sa séance. Le soir à 19h30, ceux qui sont dans le groupe de grecs progressants se réuniront dans la salle Roberti, aux 4 rues de l'Oratoire. Et à 20h30, ce sera l'approfondissement théologique consacré ce mois-ci au 19e siècle. Le lendemain, mardi à 14h30, l'étude biblique consacrée à l'Évangile selon Jean. Nous en serons au moment du procès de Jésus. Le soir à 20h aura lieu un repas partagé avec celles et ceux qui ont constitué les groupes d'initiation théologique ces dernières séquences. Donc 20h, chacun apporte quelque chose à partager. Le lendemain, mercredi, à 20h, aura lieu l'étude biblique œcuménique consacrée cette année à la foi. Et ce sera dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, la foi, notamment, mise en évidence par l'attitude de Thomas. Jeudi à 19h30, rencontre du cœur de l'oratoire, un cœur élargi à celles et ceux qui voudraient travailler les chants qui seront chantés le dimanche suivant. Dimanche suivant qui sera le dimanche de Pentecôte, culte à 10h30 qui sera aussi l'occasion des confirmations de quelques catéchumènes. Aujourd'hui, les bancs des diacres sont vides parce que les diacres sont en face aux quatre rues de l'oratoire pour préparer un repas qui va être servi à des personnes en difficulté sociale. C'est un repas organisé en lien avec le Centre d'Action Sociale Protestant. Les diacres ne vont donc pas pouvoir recueillir notre offrande, mais j'imagine que les conseillers presbytéraux vont pouvoir suppléer. Et c'est une offrande, justement, qui sera destinée à l'entraide, comme pour chaque deuxième dimanche du mois. Voilà, c'est le moment maintenant de joindre l'utile à l'agréable par ce geste d'offrande. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, toi qui prends un soin infini de chacun d'entre nous, tu nous rends attentifs aux besoins des autres, attentifs à leurs paroles qui traduisent parfois maladroitement ce qui est essentiel pour eux. Tu t'es attaché à susciter des personnes capables de briser toutes les formes de silence coupable. Alors donne-nous le courage de soutenir tous ceux qui, dans notre communauté rassemblée ici, et bien entendu au-delà, font entendre leur voix en ton nom et qui deviennent la voix des sans-voix. Qu'à travers ces personnes, un réel amour de la vie soulage de la détresse, de la solitude, et fasse découvrir ce qu'il y a encore à vivre. Tu as appelé tes disciples à être des messagers unis dans l'annonce de l'Évangile et des instruments de transformation de ce monde. Alors assiste-nous. Que la perspective d'un monde transformé saisisse l'imagination de tous les croyants et que les croyants n'en restent pas au stade de l'imagination et qu'ils puissent traduire ton espérance à travers des projets, à travers des actions. Toi qui es ce qui nous conduit à la vie véritable, puissions-nous vivre continuellement de ta puissance vivifiante qui donne de la force à ceux qui n'en ont pas et qui nous pousse à donner la parole à ceux qui en sont privés. Toi qui nous conduis à la vérité tout entière, toi qui redresses ce qui est faussé, toi qui mets en pleine lumière ce qui est caché, inspire celles et ceux qui exercent des fonctions de gouvernement dans notre communauté, dans notre région, dans notre pays, dans le monde. Accorde à tous la capacité de veiller à ce que les besoins des pauvres, des petits, des faibles, des sans-voix, ne soient pas laissés de côté. Et garde-les de toute tentation, afin que leur intégrité morale soit préservée de la corruption. Nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples, que nous te disons en nous levant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Une autre parole du livre de Daniel en guise de bénédiction. Ne crains rien, ô homme bien-aimé, la paix est avec toi. Courage, courage. Amen.